VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. En Algérie, le gouvernement revendique de nouveaux succès dans ses opérations contre les présumés terroristes opérant dans le sud du pays. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Selon le ministère algérien de la Défense, le bilan des opérations menées dans le sud depuis le 9 juin s'établit aujourd'hui à 17 morts et 4 arrestations parmi les islamistes. De ce nombre, 14 ont été abattus hier dans une région montagneuse située à 80 km de la capitale, Alger. Auparavant, les autorités avaient fait état de 9 morts. Les soldats algériens ont pu également saisir des armes, munitions et explosifs pendant cette opération. Les islamistes armés sont restés actifs en Algérie depuis le début des années 1990, notamment dans l'est et le sud du pays. En 2005, 97% des Algériens avaient approuvé une charte pour la paix et la réconciliation proposée par le gouvernement. Entrée en vigueur en février 2006, elle était censée ramener la paix. Cependant, rien qu'en cette année 2016, au moins 101 islamistes armés ont été tués, selon un bilan officiel cité par l'AFP.
Au Kenya, 5 policiers kenyans ont été tués ce matin lors de l'attaque de leur convoi dans le nord-est du pays par des hommes armés soupçonnés d'être des islamistes somaliens Shebab. Le véhicule de police qui escortait un bus a explosé après avoir apparemment été touché par un tir de lance-grenade près de la ville d'Elwak à la frontière avec la Somalie. Le Kenya est une des cibles privilégiées des Shebab depuis octobre 2011, date à laquelle Nairobi a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Niger, 2 semaines après une attaque par le groupe islamiste Boko Haram qui a fait au moins 30 morts, la communauté frontalière nigérienne de Bosso est devenue une ville fantôme. Au micro de John Lyndon, Emily Yob, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Diffa, décrit la situation sécuritaire précaire sur place.
Alors à Diffa, aujourd'hui, je suis allée sur le marché et le marché est assez vide. En fait, beaucoup de gens ont quitté la ville. Et la situation est qu'il y a beaucoup moins de monde en ville, tout simplement. Et que même en ville, les gens sont soumis à des contrôles de sécurité renforcés. Les gens qui allaient à la mosquée devaient montrer qu'ils n'avaient pas de ceinture d'explosifs sur eux. Donc la situation sécuritaire est assez tendue. Dans la ville, les gens, les commerçants notamment, voient vraiment une différence. Les clients sont partis, qu'il y a généralement plus moins de monde en ville.
Vous êtes allé également à Bosso, Bosso qui a été attaqué récemment. Est-ce que c'est toujours une ville fantôme?
Absolument, oui. J'ai croisé une personne qui avait quitté la ville et qui revenait juste prendre des affaires. Mais la ville est occupée à 90% par les militaires. Il y a peut-être une cinquantaine de gens qui sont restés sur place. Sur les 25 000, c'est absolument un nombre très faible de gens qui sont restés malgré tout. La ville n'a pas été saccagée, elle a été abandonnée. On voit vraiment que la fuite est précipitée, tout a été sur place et les gens ont fui dans des camps, dans la brousse, quand les coups de feu ont commencé.
Alors, le ministre de l'Intérieur avait parlé de sécurité. Vous parlez évidemment des militaires qui sont partout. Est-ce que cela ne devrait pas rassurer les populations pour qu'elles reviennent?
C'est en tout cas le souhait du ministre de l'Intérieur. C'est effectivement le message que les autorités nigériennes essaient de faire passer en disant que les militaires sont là et que la sécurité a été renforcée. Mais la situation sécuritaire demeure vraiment volatile dans la région parce qu'il y a encore une attaque juste après que le convoi officiel soit passé. Donc il y a vraiment aussi le Boko Haram qui provoque un peu les autorités en attaquant aussi juste après elle. Il faut bien montrer que pour installer la parano et pour montrer qu'elle occupe tous les terrains. Donc c'est un peu un jeu aussi d'influence entre les autorités et Boko Haram pour un peu aussi une guerre psychologique.
On parle également de couvre-feu à Diffa. De quoi s'agit-il?
Effectivement, les véhicules n'ont pas le droit de circuler le soir entre 19h et 6h du matin.
Émilie Yob, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Diffa au Niger. Bilan et perspective de l'accord de paix au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la nation dimanche soir et parlé de certains acquis, mais aussi de ce qui reste à accomplir. Il y aura, a dit Ibeka, la mise en place des autorités intérimaires, le retour des structures sociales de base et le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. On écoute le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Chacun, en effet, à son niveau, a pu constater que tout ne se déroule pas comme prévu. Depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, les obstacles à sa mise en œuvre se sont multipliés. Le parcours qu'on a souhaité le plus paisible possible s'est avéré de plus sinueux et improbable. Nous procéderons à l'installation des autorités intérimaires en commençant par les régions du nord du Mali. Il en sera de même de l'effectivité du mécanisme opérationnel de coordination avec la participation des mouvements signataires. Malgré les difficultés du moment, j'ai l'intime conviction que le camp de la paix que j'incarne contre vents et marées suit une trajectoire historique. En dépit de nos différences d'appréciation et de nos sensibilités respectives, je voudrais inviter l'ensemble des Maliennes et des Maliens à rejoindre le camp de la paix, à l'élargir, à le renforcer, chacun avec sa perception pour le Mali uni.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Soudan a convoqué dimanche le chef de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, MINUAD, au Darfour, à la suite d'un rapport de l'ONU recommandant l'extension pour un an du mandat de cette force. Khartoum intensifie depuis des mois la pression pour que les casques bleus se retirent du Darfour, en assurant que cette région ravagée par la guerre est désormais pacifiée, ce dont doutent des diplomates et des experts. Congo-Brazzaville, maintenant, un journaliste de TV5 Monde placé en garde à vue samedi soir dans le nord du pays a été libéré dimanche par les autorités policières locales qui l'ont exhorté à regagner la capitale. Le point avec Joselle Morissin.
Sans motif précis, Alain Chongou et deux confrères ont été gardés à vue par la police de Beto, localité située à 1000 km au nord-est de Brazzaville, dans la nuit de samedi à dimanche. Pour le ministre congolais de la Communication, Thierry Mungala, il s'est agi d'un simple malentendu et les journalistes allaient regagner Brazzaville par avion. L'AFP a joint Alain Chongou, qui a confirmé la nouvelle de sa libération. Cependant, nos passeports et ma caméra ont été confisqués. Les autorités ont promis de les restituer au pied de l'avion devant nous ramener à Brazzaville, a-t-il précisé. Les trois s'étaient rendus à Beto dans le cadre d'un reportage sur les activités du programme des Nations Unies pour la population à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés ce 20 juin. L'AFP rappelle que depuis 2010, plusieurs vagues de personnes fuyant des conflits en Centrafrique ou en RDC ont trouvé refuge à Beto.
Un nouveau record a été battu dans le monde en 2015 avec 65 300 000 personnes déracinées qui ont dû fuir leur foyer ou leur pays en raison des guerres et des persécutions, annonce le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Depuis 2011, date du début de la guerre en Syrie, ce chiffre ne cesse d'augmenter selon le dernier rapport statistique annuel publié par l'UHCR. D'après ce document, l'Afrique est la première terre d'asile devant l'Europe. Le continent africain accueille à lui seul 4 410 000 réfugiés qui proviennent essentiellement de 5 pays, Somalie, Soudan du Sud, RDC, Soudan et Centrafrique. L'Europe arrive en deuxième place dans le monde avec 4 390 000 réfugiés, un chiffre en augmentation de 43% en un an. Actualité aux États-Unis, maintenant présidentielle américaine, Donald Trump, le candidat probable du Parti républicain, se plaint d'un apparent projet de révolte des délégués visant à lui ravir l'investiture lors de la convention du mois prochain à Cleveland. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Certains délégués à la convention qui se tiendra à Cleveland dans l'Ohio souhaitent un changement des règles afin de permettre éventuellement le choix de quelqu'un d'autre pour représenter le Grand Old Party à l'élection du 8 novembre. Le milliardaire, magnat de l'immobilier, qui a battu ses autres candidats républicains au cours des primaires, a fustigé cette idée comme étant absolument insensée. « Qui vont-ils choisir ? J'ai vaincu tous mes adversaires, je les ai battus à plate couture », a déclaré Donald Trump devant ses partisans lors d'un meeting électoral ce week-end dans le Nevada. Dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision CBS, le candidat a fait savoir que les législateurs républicains au Congrès qui ont exprimé des doutes ou une opposition catégorique à sa candidature devraient faire leur travail et le laisser briguer la présidence. Mais aux yeux de ses adversaires, il ne représente pas les positions conservatrices traditionnelles et ses commentaires immodérés sur les femmes, les musulmans et les Mexicains font de lui un porte-étendard inacceptable. Donald Trump ne semble pas avoir compris l'ampleur de cette opposition puisqu'il a renchéri hier en exprimant de nouveau son soutien pour le profilage des musulmans vivant aux États-Unis et l'interdiction temporaire d'entrée aux immigrants d'origine musulmane.
Union européenne, une sortie de la Grande-Bretagne de l'UE serait irréversible. Telle est la mise en garde lancée ce lundi par le chef de la diplomatie britannique Philip Hammond. Ce dernier a prédit que le résultat de la bataille du référendum sur le Brexit allait être très serré. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.